Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour et bienvenue à tous, c'est le carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon proposée par plusieurs radios associatives. Dans ce carnet de région, nous ferons tout d'abord le point sur l'avenir de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan avec Radio RCF Maguelone-Hérault. Pendant ce temps-là, les premiers trains entre Paris et Barcelone circulent sans rouler à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan. Radio Arel s'étire un premier bilan de ce nouveau trajet transfrontalier. Nous nous intéresserons à la réforme des collectivités territoriales et plus particulièrement à la fusion des cantons, exemple en Lozère avec 48 FM Mende. Sur les plateaux de l'Escandorgue dans le nord du département de l'Hérault, la mobilisation s'organise contre un projet de parc éolien, reportage de Radio Lodev. Nous mettrons un peu de beurre dans ce carnet de région, si j'ose dire, grâce à un Belge lozérien qui a décidé de fabriquer des beurres de haute qualité. Et puis enfin, un zoo verra le jour dans l'Hérault à Saint-Tibéri d'ici l'été prochain, un sujet de Radio Pays d'Hérault. Le projet de ligne à grande vitesse ferroviaire entre Montpellier et Perpignan relancé, le premier comité de pilotage s'est tenu la semaine dernière. Il faut dire que depuis 2009, le dossier enchaîne retards et péripéties, mais tout semble relancé depuis le courrier du ministre des Transports mi-décembre. Frédéric Cuvillier a donné son feu vert et confirme la ligne à grande vitesse. Les voyageurs devraient gagner entre 30 et 45 minutes entre Montpellier et Perpignan pour un trajet d'1h30 actuellement. La reprise des études est un véritable soulagement pour le président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, au micro de Romain Bercher d'RCF Maguelone-Hérault.
Il y a eu un orage de grêle qui nous est tombé sur la tête, et c'est une image que je dresse, quand au mois de juillet précédent, il a été annoncé à l'échelle de la France que les travaux du TGV étaient stoppés ici en Languedoc-Roussillon pour Perpignan-Montpellier. J'ai beaucoup travaillé durant l'été avec le Premier ministre et il m'a dit « Christian, tu as mon accord, les études vont redémarrer ». Et donc on a 3 ans d'études devant nous. Il aurait fallu le faire dans n'importe quelle circonstance et après 3 ans d'études, il y aura 3 ans de travaux comme il y a actuellement sur la ligne Nîmes-Montpellier. Dans la première partie, sur les 3 ans d'études, nous avons arrêté, et c'est une décision importante, que nous connaîtrions le tracé définitif du TGV entre Montpellier et Perpignan pour, en gros, le deuxième semestre 2015. C'est une décision importante. Et fin 2016, les études seront terminées. Il faudra prendre la décision de lancer les travaux. Donc vous le voyez, tout est redevenu normal. Tout est remis sur rail pour que notre TGV entre Montpellier et Perpignan se fasse.
Le tracé, justement, il est au cœur des tensions. Une trentaine de manifestants est venu protester devant la préfecture. Le tracé n'est pas bon, selon eux. Celui proposé par RFF propose 2 nouvelles gares à Narbonne et Béziers. Leur construction est d'ailleurs confirmée par le ministre des Transports. Les élus locaux et associations pointent du doigt un projet aux multiples défaillances. Écoutez ces quelques réactions.
Alors que cette ligne est conseillée comme étant un corridor prioritaire pour l'Europe, pour faire un vrai report modal de l'autoroute sur le rail, où il y a une vraie demande, puisque nous avons travaillé avec l'association Fermet, qui est une association internationale de gros transporteurs, qui, elle, demande de toute urgence, est-ce qu'il y a vraiment le passage en train de certains gros conteneurs ou de transport fret.
Juste avant d'entrer dans la préfecture, nous avons eu l'occasion de rencontrer M. Navarro, qui quand même nous a encore rassurés en nous disant que la région maintenait toujours le tracé initial, c'est-à-dire le tracé PIG de 95.
La question de ce tracé est sensible au point que Christian Bourquin ne veut pas se prononcer.
Donc j'écouterai et je souhaite un travail collectif là-dessus et que se dégage un consensus pour l'arrêt de ce tracé. Je ne me prononcerai pas avant, par respect de mes collègues présidents d'agglomération, présidents de conseil général sur la ligne Montpellier-Perpignan.
Par ailleurs, un observatoire de la saturation ferroviaire sera prochainement mis en place. Prochaine étape, mai, avec la tenue d'un nouveau comité de pilotage.
Pendant ce temps-là, les trains entre Paris et Barcelone circulent depuis le 15 décembre dernier, sans rouler à grande vitesse entre Montpellier et Perpignan, 6h25 entre Paris et Barcelone. Vanessa Gomez de Radio Arels tire un premier bilan de ce nouveau trajet transfrontalier.
Lors du premier anniversaire de la circulation des trains Avant, le TGV qui relie Figueres à Barcelone, Félix Martín, délégué de la ligne à grande vitesse en Catalogne, a donné par la même occasion les chiffres d'affluence de la nouvelle ligne Barcelone-Paris, inaugurée en décembre dernier. Le TGV Barcelone-Perpignan-Paris a été emprunté par 8139 voyageurs dès la première semaine. Parmi eux, 1641 ont fait le voyage Barcelone-Paris, 1324 voyageurs de Barcelone à Perpignan, 1192 Barcelone-Montpellier, 665 entre la gare de Sants, Barcelone et Narbonne, 426 entre Perpignan et Figueres et 130 trajets entre Gérone et Perpignan. En tout, 42 000 billets avaient été vendus le 24 décembre pour voyager en France. Trois semaines après la mise en service de la ligne à grande vitesse, plus de 3 000 personnes ont emprunté le TGV, soit à l'arrivée ou le départ de Gérone, dont 410 entre la gare de Perpignan et 200 voyageurs entre les gares de Gérone et Montpellier. Des chiffres très positifs, communiqués par Félix Martín, qui laissent entrevoir un bon espoir concernant l'augmentation des fréquentations.
Enfin, la SNCF mise sur un nombre de 235 000 voyageurs au terme de la première année de la mise en service de la connexion entre Paris et Barcelone. Et puis, selon le président de la RENFE, les déplacements entre France et Espagne à l'horizon 2017 devraient atteindre les 1,8 million de passagers par an.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héros,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
En mars prochain, le gouvernement doit entériner les nouvelles cartes cantonales suite à la réforme territoriale. Nouvelle assemblée qui entreront en vigueur en mars 2015. Des cartes qui font déjà débat partout en France. Qu'en est-il en Lozère? Ludovic Terrol de 48FM s'est intéressé au sujet.
Oui Adrien, en mars 2015, l'ensemble des départements français auront une nouvelle assemblée. Moins de conseillers généraux suite au redécoupage des cartes cantonales, des cartes dessinées par le gouvernement suite aux propositions des élus de ces départements. Et dans la majorité des cas, la carte fait débat, les élus de droite criant le plus souvent à un redécoupage politique. Et la Lozère n'échappe pas à la règle, si ce n'est que plusieurs maires de gauche ne se satisfont pas du redécoupage qui voit la Lozère passer de 25 à 13 cantons. D'après Jean-Paul Pourquier, président UMP du Conseil Général, fervent opposant à cette carte, les raisons de désapprobation sont multiples.
Alors les raisons sont multiples, d'abord parce qu'il n'y a, pour moi et pour les élus locaux aussi, aucun critère objectif tel qu'ils l'entendaient, qui n'ont été retenus. Notion de bassin de vie, de voie de communication, de barrières géographiques, c'est-à-dire autant d'éléments qui ont fait, qui faisaient, qui constituaient le canton tel qu'il était depuis un peu plus de 2 siècles maintenant, et autour duquel on avait un certain nombre d'habitudes de travailler ensemble. La preuve, c'est que beaucoup de communautés de communes se sont constituées à l'échelon cantonal, au départ, et puis parce qu'il y avait aussi une administration et des services liés à ce périmètre cantonal. Et aujourd'hui, on sent bien, l'inquiétude, c'est que justement l'élargissement demain fasse disparaître un certain nombre de ces services, et puis de ne pas se retrouver dans ce qui constituait cette entité, c'est-à-dire ces lieux de vie, d'habitude de travailler ensemble, le bassin de vie. On a tenu compte que de la population et que du seuil de plus 20, moins 20% autorisé par le Conseil constitutionnel. On n'a rien pris d'autre en compte.
Et s'il faut chercher des défenseurs de la carte, il faut aller du côté du sénateur maire de Mende, car si cette carte n'était pas celle qu'il souhaitait, le sénateur de gauche de la Lozère y voit quand même des motifs de satisfaction. Alain Bertrand.
Non, moi la carte qui m'aurait satisfait, c'est la carte qui aurait comporté 3 cantons sur Mende, rassemblant en gros les 20 ou 25 000 habitants du bassin de vie mandois. Donc celle-ci ne me satisfait pas entièrement. Ce n'est pas la mienne, bien entendu, c'est celle du ministère de l'Intérieur. Elle me satisfait simplement de 2 points de vue. Elle restaure l'égalité du vote de chaque citoyen, puisque chaque canton fera en gros 6 000 habitants, alors que là nous avions des cantons pratiquement à 10 000 et d'autres à 1 500 habitants. Premier point de vue, donc égalité du vote des citoyens. Deuxième point de vue, parité, parité absolue. Ce qui devrait enrichir le débat et l'ambition de notre Conseil général pour former des pistes et des stratégies pour l'avenir. 13 hommes, 13 femmes, je trouve que c'est une avancée considérable. Et je rappelle que le Conseil d'État avait rendu obsolète le découpage qui durait depuis 2 siècles, les actuels cantons, qui faisait qu'un conseiller général en ville pouvait être élu par 50 000 électeurs et à la campagne par 1 000. Je rappelle donc que l'UMP avait proposé d'y substituer le conseiller territorial que nous avons abrogé au Sénat et à l'Assemblée. Ce conseiller territorial mettant en place la disparition des départements. Donc finalement, nos 13 cantons vont permettre à la ruralité de continuer à exister. Il ne s'agit pas de préfigurer un découpage administratif ou l'organisation des services publics. Il s'agit d'une circonscription électorale permettant d'élire un homme, une femme et leurs suppléants respectifs.
Et le Conseil général doit émettre un avis sur cette carte le 27 janvier prochain. Des recours sont déjà programmés, sachant que pour l'instant, le gouvernement n'a révisé aucune de ces cartes.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Une 20aine de membres du collectif pour la protection des paysages et de la biodiversité dans l'Hérault, opposés à l'implantation d'éoliennes sur le plateau de l'Escandorgue dans le nord du département. Ils ont bloqué la batteuse de bois et le début des travaux de débroussaillement sur le site de Cabalas dans le petit village de Joncelles. C'était jeudi vers 8h du matin, la même où 13 machines doivent être installées. Un peu plus tôt dans la semaine, ils étaient venus en sous-préfecture de l'Odève ramener piquets et autres panneaux récupérés à Cabalas et à Bernag, demandant l'arrêt des travaux tant que tous les recours n'auront pas été examinés. Directement impactés par ce projet d'éolienne, la communauté de l'Arche à Joncelles, où vit Jean-Baptiste Libouban, à l'origine du mouvement des faucheurs volontaires et anti-OGM, il a décidé de se lancer dans un nouveau combat.
C'est une petite visite pour rapporter simplement des piquets qu'on a trouvés sur le terrain et qui consistaient à marquer sur Bernag déjà les terrains où ils vont marquer, ils vont faire le défrichage dans la semaine, comme l'ont dit les chefs de travaux, et le défrichage est aussi marqué sur Cabalas, parce que là, ça appartient à différents groupements forestiers, et le piquetage a été fait. C'est absolument pas réglementaire, c'est contre la loi, c'est illégal de faire ça alors qu'il y a des recours. Eh bien, on va rapporter ces pièces à conviction à madame la sous-préfète, en lui disant, voilà, on rapporte aussi les arrêtés du préfet qui autorisent le défrichage. Tout ça, c'est absolument contraire, on dirait, à la légalité. Ça n'a pas été pris en compte dans les impacts ni même dans les décisions actuelles. C'est qu'il y a la présence de l'aigle royal qui est protégée par des conventions internationales, par la directive oiseau. C'est contraire à l'orientation du parc. Et on voit que là, il y a un abus, effectivement, pour des orientations financières. C'est la dignité des citoyens de dire que lorsque l'État n'arrive plus à assumer ses responsabilités, eh bien le relais revient aux citoyens parce que maintenant il est sous la pression des sociétés éoliennes qui, elles, vont envoyer ce courant-là non pas sur l'Odève, non pas sur Joncelles, sur Roquredonde, sur Montpellier ou sur Béziers, mais sur une RTE, c'est-à-dire des lignes à 250 000 et 400 000 volts, dont une part même va être accordée à la RTE qui part sur l'Espagne, depuis le transformateur de Saint-Victor et Malzieux, qui veulent construire dans l'Aveyron. Ils ne devraient absolument pas se permettre de faire ça, alors qu'il y a des recours juridiques engagés. Il y a le côté judiciaire, et puis après il y a le côté, on pourrait dire, démocratique, des gens qui sont sur place et qui disent non. Nous, on est déjà nous-mêmes traumatisés, parce qu'on est des antinucléaires de fond. Depuis, moi, plus de 50 ans, je suis antinucléaire. Et d'un coup, je découvre qu'on est en train de me rouler dans le vent. Et du vent qui est fait à faire de l'argent. Et on dit non, voilà, stop à l'abus éolien qui était une bonne chose au départ.
Jeudi, le collectif a mené un premier acte non violent d'opposition en stoppant les machines sur le terrain. Déterminé, il a déclaré le 16 janvier comme premier jour de la zone à défendre de l'Escandorgue, appelant les gens à venir le rejoindre dans sa lutte. Il faut savoir qu'à terme, on pourrait voir arriver une 50aine d'éoliennes sur ce plateau. Membre du collectif 34, Alain Caspary est aussi le président de l'association des protections des paysages de l'Escandorgue et du Lodévois. Il est propriétaire d'un centre de vacances. Et pour lui, c'est l'économie du secteur qui est remise en cause avec ces éoliennes.
L'Escandorgue, en plus donc d'une forte concentration d'avifaune et d'espèces à protéger, abrite aussi des structures d'hébergement. Vous avez les bouddhistes à l'érabling. Vous avez la communauté de l'Arche qui fait également de l'hébergement, la Flessière, un centre de vacances donc sur l'Ambéran. Vous avez des gîtes nombreux aux alentours immédiats des projets envisagés. Et il y a sur le plan local donc un risque économique grave parce que les gens qui viennent dans l'arrière-pays viennent pour la nature, la tranquillité. Or, dans le cas par exemple de la Flessière, on va mettre en face 13 éoliennes. Dans le cas de l'Ambéran, on met juste 1 km du camping des éoliennes alors que le camping est sous le vent. En plus, il faut ajouter que nos touristes viennent pour avoir des nuits étoilées. Or, les flashs des éoliennes vont éliminer cet aspect recherché par nos vacanciers. Il ne faut pas oublier qu'au bord de la mer, les élus se sont mobilisés contre l'implantation d'éoliennes à 10 km des côtes. Et nous, on nous impose des éoliennes à 1 km donc, de nos structures d'hébergement. Il y a à peu près 80 000 nuitées qui sont faites dans l'Escan d'Orgue. Donc il est inadmissible que cet aspect économique des choses n'ait pas été étudié par les services de l'État et la préfecture de l'Hérault.
C'était un sujet d'Alain Mendès de Radio Lodev. Beurre à la fleur de sel, beurre à la truffe, à l'oignon, au gingembre, beurre citron, poivre vert, ail fine ou encore échalote, voilà tous les types de beurre que produit l'entreprise Lozerio belge Mima Milk, des beurres de haute qualité en direction de restaurateurs. Au départ de cette histoire, Lozer Développement, agence de développement économique du Conseil Général qui a mis en relation les fromagers de Lozère avec Lionel Plaquette, entrepreneur belge qui recherchait un partenaire français capable de produire du beurre haut de gamme. Et près d'un an après, les premiers produits sont à la vente. Écoutez Jean-Pierre Julien, gérant des fromagers de Lozère et associé à Mima Milk, au micro de Ludovic Terrol de 48FM.
On a toujours eu la volonté sur cette structure d'essayer de trouver des produits qui pouvaient être complémentaires avec ceux qui se faisaient déjà sur le département et d'essayer d'être de moins le moins en concurrence possible avec des produits déjà existants. Ça avait été le cas pour le démarrage avec les yaourts et les fromages blancs. Ensuite, pour la gamme de fromages, ça avait été aussi le cas puisqu'on a développé une gamme qui n'existait pas ou qui avait existé mais dans d'autres sociétés auparavant et qui avait été abandonnée. Et là, pour le beurre, ça nous est apparu comme un très bon complément, puisque toujours à partir de matières premières qu'est le lait, bon, ici la crème, pour fabriquer du beurre, mais la volonté toujours de valoriser une production locale avec des nouveaux produits. Et il se trouve que c'est également un très bon complément d'un point de vue commercial, quand on peut ajouter encore une gamme de produits laitiers, en plus des produits frais qu'on a déjà et des fromages.
Et ces beurres de haute qualité seront bientôt disponibles en épicerie fine et supermarché par portion de 250 à 100 grammes.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et puis juste avant de refermer ce carnet de région, un nouveau zoo va voir le jour en Languedoc-Roussillon, situé dans l'Hérault entre Pézenas et Agde, précisément sur la commune de Saint-Ibéry. Un parc zoologique peuplé à majorité de volatiles provenant des 5 continents et qui devrait ouvrir ses portes d'ici à l'été prochain. 3,5 millions d'euros investis, jusqu'à 50 emplois à terme, dont une trentaine dès la première année. Une idée de Damien Loral, à l'origine du projet, et âgé de seulement 21 ans. Alors en quoi le zoo de Saint-Ibéry sera-t-il différent de la réserve africaine de Sigean dans l'Aude? Damien Loral.
Bien, on n'a rien à voir de la réserve africaine de Sigean, qui est un parc de renom, entre guillemets. C'est un parc qui était présent alors que je n'étais même pas né. Donc non, c'est vraiment complètement différent parce que la réserve africaine de Sigean, c'est un parc voiture, quasiment voiture, même s'ils ont un parc pédestre. Mais c'est nous, on est vraiment axé sur la partie pédestre. Et eux, ce sont principalement des mammifères et des herbivores africains sur de très grandes plaines, de très grandes réserves. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle réserve. Et nous, comme on a travaillé l'aspect zoo-contact, on est sur des espèces beaucoup plus petites, entre guillemets, et on est axé sur un volet pédagogique qui est différent et un aménagement qui est différent. Parce que la réserve africaine de Sigean, comme son nom l'indique, c'est africain. Nous sommes intercontinentales, c'est-à-dire que nous allons présenter les animaux des 5 continents. Donc en soi, je dirais qu'on est plutôt deux parcs extrêmement complémentaires sur un territoire. Et puis, on offre quelque chose de nouveau, de différent. Donc en termes de point de comparaison, entre guillemets, c'est la question qu'on me pose toujours, c'est qu'est-ce qui nous différencie de Sigean ? C'est extrêmement difficile d'y répondre au final, puisqu'on est tellement différent sur notre présentation et sur ce que l'on fait, même si en soi on a le même objectif qui est la sensibilisation et la conservation des espèces menacées. En termes de présentation, on n'a absolument rien à voir.
Damien Leral à l'origine de ce futur zoo qui devrait voir le jour d'ici à cet été sur la commune de Saint-Tibéry dans l'Hérault. C'est la fin de ce carnet de région. Merci à vous de l'avoir écouté. Excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.